Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'accoutumance aux bonnes choses est quelque chose que nous rencontrons fréquemment et qui nous coûte. Pour ainsi dire, cela fait invariablement partie de notre condition humaine. C'est-à-dire que plus nous fréquentons des musées magnifiques, plus nous avons l'habitude de nous habiller somptueusement, plus nous avons l'habitude de consommer des mets fins et des boissons délicates, et plus en réalité nous trouvons que toutes ces réalités manquent de saveur au fur et à mesure que nous les consommons. Ainsi donc, que nous le souhaitions ou non, il est inévitable que nous tombions à l'égard de la Sainte Eucharistie dans une sorte d'accoutumance un peu similaire à celle que nous rencontrons lorsque nous sommes habitués à consommer des bons produits. Et nous en venons à considérer comme normal et comme presque banal d'adorer et de consommer la Sainte Eucharistie. Ce qui devrait en principe nous tirer des larmes, nous tire parfois des bâillements. Le privilège que le Seigneur Jésus nous a fait de nous donner son corps et son sang, alors même qu'il montait à la droite de son Père, de nous donner donc cette présence toute particulière, toute nouvelle, sacramentelle mais bien réelle, nous devrions normalement être en pâmoison devant ce mystère, et très souvent, l'heure de la messe semble passer très lentement, et nous approchons de l'Eucharistie sans vraiment nous être préparés. Le saint curé d'Ars, je pense que vous connaissez très bien cette parole de ce saint, le saint curé d'Ars disait que si nous réalisions pleinement ce qu'est une messe, alors nous mourrions. C'est-à-dire que nous sommes loin d'avoir les dispositions d'un saint. Et parce qu'elle connaît mieux que personne de quoi est faite la pâte humaine, notre mère, l'Église, veut chaque année que ses enfants se piquent en quelque sorte la conscience au contact de l'Eucharistie. C'est-à-dire que ses enfants consacrent à la Sainte Eucharistie, au corps et au sang eucharistique de Jésus-Christ, une solennité particulière, au cours de laquelle on porte en procession Jésus, et chose rarissime dans l'année, en fait, nous le sortons du sanctuaire pour aller le faire reposer précisément sur un reposoir. Nous mettons sous ses pieds des pétales de rose, nous chantons le Laudation, bref, nous faisons baigner dans l'encens ce Saint-Sacrement, comme pour mieux manifester toute la divinité qui est là, la présence majestueuse du Christ ressuscité présent dans l'hostie. Alors nous faisons cela ici, je le sais, avec les moyens du bord. Cette solennité, en réalité, est toute simple et on se croit ici davantage à Nazareth ou à Bethléem que sur le mont Tabor ou que lors de l'entrée glorieuse du Christ à Jérusalem. Enfin, le Seigneur ne dédaigne pas nos efforts, comme une maman ou un père ne dédaigne pas que son petit enfant lui apporte un dessin qui ne ressemble pas à grand-chose, mais qui est donné avec tout son cœur et qui est reçu donc avec larmes par les parents. Donc n'ayons crainte, notre solennité d'aujourd'hui, avec les moyens du bord, plaît à Dieu, c'est certain, et touche son cœur au plus profond. Pourvu que nous ayons les dispositions intérieures, bien sûr, et que nous ne soyons pas des pharisiens, comme trop souvent. Je voudrais vous montrer, entre toutes les vertus, entre tous les effets bénéfiques de la Sainte Eucharistie, sur laquelle on pourrait consacrer des années en réalité, je voudrais vous montrer deux effets particulièrement bénéfiques qui doivent nous mettre dans la joie et qui doivent nous donner courage pour accomplir notre tâche apostolique. Je voudrais donc vous montrer deux effets particulièrement éminents de l'Eucharistie quant à l'évangélisation, dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles, et je crois qu'on a raison, les pontifes n'ont rien inventé en demandant d'aller évangéliser, on a qualifié de nouvelle évangélisation, cette réévangélisation des terres chrétiennes, en réalité ça s'est fait au fil des siècles par les missions qui ont été promues pour réveiller les campagnes ou les villes régulièrement. Voilà que aujourd'hui on nous demande d'une manière particulièrement accrue de promouvoir cette nouvelle évangélisation. Et l'on ne cesse d'organiser des réunions, d'organiser toutes sortes de processus humains pour tenter de draguer le fidèle éventuel, pour tenter d'attirer le chaland. Je crois qu'en réalité, le meilleur moyen sur lequel nous puissions nous fonder, c'est l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie ? Parce qu'elle a deux effets principaux, l'unité du corps mystique, c'est ce qu'elle procure, c'est son effet propre, et parce que plein de l'Eucharistie, nous pouvons aller annoncer Jésus-Christ. Je m'explique en quelques instants, si vous le permettez, l'unité. Qui ne rêve qu'advienne enfin l'unité entre les hommes ? Il y a là comme une nostalgie de l'Éden, où Dieu, avait fixé dans une condition première Adam et Ève de manière absolument homogène et absolument harmonieuse. Et si au-delà des divisions de toutes sortes qui se sont accumulées au fil des millénaires à cause du serpent, ce diabolos, le diviseur, si au-delà des conflits, des haines, demeure en chaque homme, je dis bien chaque homme, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en ait, cette soif d'unité, c'est parce que l'espèce humaine a été créée à l'image de la Trinité, où l'on a trois personnes dans une communion intime. Et ça, c'est une marque indélébile du Créateur dans la créature. Seulement voilà, nous voyons concrètement, nous ne voyons pas très bien comment accéder à cette unité de la race humaine. Alors l'être humain s'est forgé toutes sortes d'expédients fallacieux, il s'est construit des Babel, des tours de Babel antiques et modernes pour essayer d'obtenir l'unité de la race humaine avec ses petits poignets, mais toutes ces tours-là se sont effondrées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont négligé la plupart du temps le seul moyen qui permette l'unité de la race humaine, qu'est l'Eucharistie. Nous autres catholiques, nous connaissons le secret de cette unité parce que saint Paul nous le dit. Nous formons un seul corps, nous qui avons part au même pain, qui est, poursuit-il, communion au corps du Christ. C'est de l'Eucharistie et de l'Eucharistie seulement. Il faut cesser de croire que nous arriverons autrement à obtenir l'unité. Ce n'est que par l'Eucharistie que naîtra une réelle et durable unité entre les hommes. Saint Thomas d'Aquin, qui a composé la plupart des textes de cette messe magnifique du Saint-Sacrement, et que le pape Paul VI appelait le docteur et le chantre de l'Eucharistie. Saint Thomas d'Aquin disait sans embâge que la grâce propre du sacrement de l'Eucharistie, c'est l'unité du corps mystique. Autrement dit, il n'y aura pas d'unité entre chrétiens s'il n'y a pas la consommation des saintes espèces, s'il n'y a pas communion au corps et au sang de Jésus, parce que Dieu a voulu que l'unité ne se réalise qu'ainsi, et partant l'unité de toute la race humaine, parce que tout homme est appelé à faire partie un jour du corps mystique de Jésus-Christ. L'Eucharistie, principe d'unité, seul principe d'unité du corps mystique, et tout homme appelé à entrer dans le corps mystique. Donc, le principe d'unité de la race humaine, c'est l'Eucharistie et ça ne peut être que cela. Et nous sommes là, auditeurs de saint Paul, lecteurs occasionnels de saint Thomas d'Aquin, parce que nous nous piquons de temps à autre de théologie scolastique, à douter que l'unité soit possible entre catholiques, ne serait-ce qu'entre catholiques, même pas entre chrétiens, a fortiori pas au sein de la race humaine, que nous croyons littéralement et viscéralement appelée à la division, alors qu'en réalité elle est faite, je viens de vous le dire, pour l'unité. Nous voyons-nous le spectacle triste d'une division entre catholiques que nous croyons insoluble. Nous pensons que jamais l'Église catholique n'arrivera à l'unité, parce que nous sommes de sensibilités diverses, parce que les formes liturgiques dont nous usons sont variées. Et je ne parle pas seulement des deux formes du rite romain, comme il est convenu d'en parler aujourd'hui. Il faut être un peu moins nombriliste de temps à autre et regarder toutes les formes de l'Orient, tout aussi vénérables que le rite romain. Je veux dire qu'avec ces formes liturgiques variées, il peut sembler, cet aspect bigarré de l'Église, il peut sembler que l'unité entre catholiques, car il existe des catholiques d'Orient, comme vous le savez, n'adviendra jamais. Parce que certains tutoient le bon Dieu et que d'autres le vous soient, parce qu'il y a des cathos de gauche et des cathos de droite, cette bonne vieille fichue terminologie française que nous laissons pénétrer jusque dans le sanctuaire, il faut quand même oser expliquer à Dieu qu'il y a des cathos de gauche et des cathos de droite, comme si ça lui disait quelque chose. Bref, parce que nous avons du mal à nous accepter mutuellement entre catholiques, nous en venons à croire que la réconciliation entre catholiques n'est pas pour demain. Alors là, permettez-moi de vous donner raison. L'unité entre catholiques, effectivement, n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Et même, elle existe depuis hier. Ce hier-là, c'est il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le gage de l'unité catholique, ce ne sont pas les efforts humains de rapprochement ou un quelconque œcuménisme intra-catholique, c'est Jésus-Christ qui a donné d'emblée l'unité au corps mystique par la possibilité de consommer les saintes espèces. Il faut cesser de croire que tout dépend de nous, ou que tout dépend d'un pape, ou que tout dépend d'un concile, fût-ce le concile de Trente. L'unité catholique ne dépend que de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, qui ne saurait mentir, nous a donné comme principe d'unité l'Eucharistie. Voilà donc le seul moyen que nous ayons de faire l'unité, se rapprocher toujours plus intensément de la communion eucharistique, puiser au corps et au sang de Jésus-Christ. C'est le moyen pour être de plus en plus proche de nos frères catholiques avec lesquels, par ailleurs, nous avons du mal, parce que nous ne sommes pas charismatiques, parce que nous ne voulons pas de la messe en français, parce que je trouverais toutes sortes d'éléments de division. Mais si je communie au corps et au sang de Jésus-Christ, alors nécessairement, inévitablement, et quelles que soient par ailleurs les réserves que j'ai vis-à-vis de mes frères, je me rapprocherai de mes frères. Vous voyez cette importance capitale de la Sainte Eucharistie, l'unité. Et pourquoi je vous disais que dans une perspective missionnaire, dans une perspective d'évangélisation, il était capital de prendre en compte l'Eucharistie et le fait que l'Eucharistie permet l'unité. Parce que, vous le savez, le Seigneur Jésus nous a dit que l'unité entre chrétiens, déjà l'unité entre catholiques, était l'un des meilleurs arguments pour rallier les autres hommes qui ne sont pas encore baptisés à l'Église catholique. C'est en voyant comme nous nous aimons, voyez comme il s'aime, qu'alors nous témoignons que Jésus-Christ est parmi nous, que Jésus-Christ est notre chef. C'est en voyant dans l'Église catholique une charité qui ne provient pas de nos petits pouic-pouic, de nos sentiments, de nos attraits naturels, mais qui provient du fait que nous communions aux mêmes saintes espèces, c'est en voyant cela que la race humaine sera conquise. Voyez, que je prie pour qu'il soit un Père comme toi et moi nous sommes un. C'est ainsi que le monde sera converti par cette apparence de plus en plus tangible de ce qui existe depuis 2000 ans et qui ne disparaîtra jamais parce que ça ne dépend pas de notre volonté, c'est-à-dire cette unité qui existe entre catholiques. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc il faut approcher l'Eucharistie, premièrement parce qu'elle permet l'unité entre catholiques et que cette unité entre catholiques est le premier argument qui permettra aux non-catholiques d'approcher de l'Église. C'est ce qu'on appelle une des notes de l'Église. Je crois en l'Église sainte, catholique, apostolique et une. Voilà ce qui conquiert les âmes à Jésus-Christ. Le deuxième effet de l'Eucharistie qui est bénéfique dans le cadre, enfin la deuxième raison pour laquelle l'Eucharistie est capitale dans le cadre de l'évangélisation, c'est que, à la différence de ce que l'on nous a appris depuis que nous sommes enfants, on ne mange pas la bouche pleine, à la différence de cette pratique profane donc, dans la vie apostolique, il en va autrement. Dans la vie apostolique, bien au contraire, il faut avoir la bouche pleine de l'Eucharistie. Je reprends cette expression à Fabrice Hadjadj, peut-être le connaissez-vous, qui a des expressions que je trouve bien frappées de temps à autre, et qui a écrit un ouvrage il y a 2-3 ans, « Comment parler de Dieu aujourd'hui ?» Il dit « Pour pouvoir annoncer Jésus-Christ, il faut avoir la bouche pleine, pleine de l'Eucharistie. » Parce que ce que nous devons, ce dont nous devons témoigner, comme catholiques, c'est de la parole de Dieu. Nous sommes des porte-paroles de Dieu et c'est tout. Nous sommes des serviteurs inutiles. Plus nous rajouterons de notre propre cru, moins les gens adhéreront à Jésus-Christ. Plus nous serons transparents du Christ, plus nous serons de simples porte-voix, mégaphones, si j'ose dire, de la parole même de Dieu qu'est Jésus-Christ, qui est contenu dans son évangile, plus notre évangélisation sera efficace. Et quel est le moyen de rendre l'évangélisation efficace par excellence, sinon la communion eucharistique? Parce que notre bouche alors est emplie physiquement de la présence du Verbe, du Logos, de la parole même de Dieu qu'est Jésus-Christ. Voyez donc en quoi il est fondamental de puiser toujours davantage dans l'Eucharistie si nous voulons que notre évangélisation soit tant soit peu pertinente. Parce que c'est le seul moyen d'obtenir l'unité catholique qui est non seulement sympathique à vivre, il faut bien le dire, il vaut mieux être entre frères unis que dans la division perpétuelle, et il est apaisant, je trouve, et réjouissant de savoir qu'au-delà de nos divisions épidermiques, nous avons une unité fondamentale. À l'heure où nous célébrons la messe ici, dans bien d'autres communautés à travers le monde, l'Eucharistie est célébrée, la fête Dieu est célébrée, avec diverses connotations, avec diverses tendances, peu importe. Tous nous allons communier au même Seigneur. Alors l'unité est là, et cette unité, encore une fois, a une pertinence, a une efficacité dans une perspective apostolique auprès de ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Et le deuxième motif pour lequel il faut communier, je ne fais que répéter ce que j'ai dit, mais bis repetita placet, comme vous le savez, eh bien c'est que la bouche pleine de Jésus-Christ, et pas autrement, la bouche pleine de Jésus-Christ et pas de nos propres expressions, de ce que nous croyons être absolument irréfutable, des formules que nous trouvons bien frappées et que nous croyons suffisantes pour amener les cœurs à Jésus-Christ, c'est l'Eucharistie qui va nous permettre de faire cela. Alors, puisons donc au sacrement de l'Eucharistie aujourd'hui plus que jamais si nous y sommes disposés. Si nous n'y sommes pas disposés, le Seigneur a eu cette miséricorde d'inventer la possibilité de communier spirituellement. Et la communion spirituelle a à peu près les mêmes effets. Alors, de grâce, si vous n'êtes pas en mesure de communier pour l'heure, suppliez le Seigneur de pouvoir obtenir les mêmes effets que la communion eucharistique, de sorte que vous aussi puissiez être un maillon, et un maillon fort, car dans l'Église, il n'y a que des maillons forts. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit saint Paul, pour pouvoir évangéliser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.